Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite, présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, on parle de page de conversion. Après avoir grandement abordé la publicité dernièrement, on discute avec Pablo Lenormand, expert CRO chez la firme Uxia. On décortique en détail un cas client pour vous aider à démarrer 2023. Quand vient le temps d'utiliser des audiences dans nos campagnes Google Ads, nous nous tournons généralement vers Google Analytics à devenir GA4 pour cibler les utilisateurs de notre site ou bien pour l'extraction des emails de nos clients. Lorsque les choses sont bien faites et si le trafic est suffisant, nous pouvons aller jusqu'à segmenter les simples visiteurs de ceux qui ont démontré une intention un peu plus forte en voyant un produit ou en l'ajoutant au panier. Un nouveau joueur arrive maintenant. Shopify. Shopify offre à présent la possibilité de générer des audiences et de pouvoir ensuite les utiliser sur certaines plateformes de marketing en ligne. Google est bien évidemment sur la liste aux côtés de Facebook. Il s'agit d'audiences froides de prospection. Shopify utilise des algorithmes alimentés par les données de plusieurs boutiques pour créer une liste de clients potentiels en fonction de leur probabilité d'acheter un de vos produits. Cela veut donc dire que votre bassin d'acheteurs actuels seront automatiquement exclus. Pour l'instant, cette option est disponible uniquement au compte Shopify Plus pour des audiences situées aux États-Unis ou au Canada. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, il faut installer l'application Shopify Audiences. L'installation de cette application gratuite sur votre boutique Shopify active la collecte des données pour les futures audiences. Ensuite, connectez votre compte Google Ads, puis accordez 24 heures pour que les audiences se génèrent automatiquement. Une fois utilisées dans une campagne active, les audiences se renouvellent tous les 7 jours pour rafraîchir les bassins de prospection. À noter, les audiences se renouvellent uniquement si elles sont utilisées. Mais de quel type d'audience parlons-nous concrètement? Shopify nous en propose 3. Numéro 1, audience à intention très élevée, portée restreinte pour toutes les stratégies en bas de l'entonnoir. Numéro 1, audience à intention très élevée, portée restreinte pour toutes les stratégies en bas de l'entonnoir de conversion. Numéro 2, audience à intention moyenne, portée moyenne également, pour toutes les stratégies au milieu de l'entonnoir de conversion. Cette audience est toutefois exclusive pour être utilisée sur Facebook. Numéro 3, audience à l'intention faible, portée élevée, pour toutes les stratégies en haut de l'entonnoir de conversion. Il s'agit ici d'une audience similaire de 3% du segment à l'intention élevée. Ce type d'audience ne propose pas de rapport au sein Shopify. Si on reste dans une optique Google Ads, cela nous laisse uniquement les audiences à intention très élevée, puisque les audiences similaires sont portées à disparaître à partir du 1er juillet 2023. Pour autant, ça reste de bonnes audiences à ajouter en observation de nos campagnes Search. Selon les résultats, nous pouvons modifier l'enchère sur ces types d'audiences. Ou même en ciblage pour des formats display ou YouTube. Cela ajoute une audience qui pourrait se rapprocher des audiences personnalisées. Ainsi, pour ne pas se priver de tester la pertinence de ces audiences. Le trafic et la conversion seront toujours les deux éléments les plus importants quand on opère dans le commerce électronique. C'est d'ailleurs ce qu'on s'efforce d'aborder sur le balado à chaque semaine. Et aujourd'hui, c'est au tour de Pablo Lenormand de nous expliquer la structure qu'il met en place afin d'améliorer constamment le taux de conversion de ses clients chez Uxia. Soyez prêts, l'épisode est rempli d'informations ultra pertinentes. Bonne écoute! Donc, nous voici de retour pour le volet discussion du podcast Commerce Elite en compagnie de Pablo Lenormand, associé chez l'entreprise Uxia et spécialiste pour améliorer les taux de conversion des boutiques en ligne. Pablo, comment ça va aujourd'hui?
Bah écoute, ça va super Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Je suis ravi d'être là et je suis ravi d'être sur le podcast du grand Antoine Gagné. C'est quand même assez incroyable. Ça fait un petit moment que je te suis maintenant, notamment à travers Social Selling, donc l'autre podcast que tu gères. Et voilà, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui et j'espère que ça pourra apporter pas mal de choses à ton audience.
Pablo, merci pour les bons mots, c'est très apprécié. Mais je pense que oui, tu vas avoir du très bon contenu à nous donner aujourd'hui parce que ce qui est excessivement intéressant, Pablo, c'est que bon, les gens sur le podcast Commerce Elite le savent, on aime donner des études de cas pratiques que les gens sont capables par la suite d'aller appliquer et intégrer à leur organisation. C'est que toi, de ton côté, l'étude de cas que tu vas nous parler aujourd'hui, c'est que bon, il y avait un client qui avait sensiblement un beau taux de conversion sur son site Internet. Et là, du jour au lendemain, on veut améliorer le site web, on veut améliorer le design, on veut changer des choses parce qu'on pense que ça va être plus esthétique. Mais finalement, des fois, quand les choses sont plus esthétiques, ce ne sont pas nécessairement des ajouts qui vont rendre le site plus performant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ici?
Effectivement, alors ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans le web et notamment en e-commerce. Et je pense que certaines personnes qui nous écoutent ont peut-être rencontré déjà cette problématique-là. C'est que quand on fait une refonte d'un site Internet, donc là, l'étude de cas dont on va parler aujourd'hui, ça a été la refonte d'un site Internet dans le secteur de la cosmétique, une marque française, dont je tairai le nom malheureusement parce que je vais donner pas mal de chiffres, donc malheureusement je ne peux pas donner le nom de la marque. Mais en tout cas, voilà, cette marque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une refonte de son site Internet, notamment une refonte graphique du site. Donc elle trouvait qu'elle avait un site un peu vieillissant et elle voulait un peu faire un coup de pinceau sur le site. Donc c'est ce qu'elle a fait, et en fait elle a eu une mauvaise surprise après cette refonte graphique. Elle s'est rendue compte que son taux de conversion avait chuté. Donc le taux de conversion, bon, un petit rappel, je pense que ceux qui nous écoutent le savent, mais c'est sur 100 utilisateurs qui arrivent sur un e-commerce, combien vont acheter. Voilà. Donc avant cette refonte, ce client avait un taux de conversion qui était un peu plus de 2%. Je crois qu'il était à 2,5 à peu près.
Ce qui est pas mauvais.
Ce qui est pas mauvais. Après, ils auraient pu faire mieux quand même, mais on en reparlera juste après. Mais en tout cas, c'est pas mauvais. En revanche, après donc cette refonte, ils sont descendus à 1,5 et 2%. Alors à chaque fois, je vais donner des fourchettes parce que le taux de conversion, comme vous le savez, il évolue pas mal. Mais en tout cas, ils ont perdu quasiment 1% de taux de conversion. Et là, je vous parle d'un client qui a quand même qui fait entre 2 et 2,5 millions de CA par an. Donc vous imaginez bien que quand on perd 1% de conversion sur son site internet, alors qu'en plus la majorité du CA est fait sur le site, ça fait quand même un petit peu mal.
C'est assez impressionnant de se dire, on veut améliorer le site et finalement, on le casse en deux. Est-ce que c'est des choses qui arrivent très souvent? Parce que bon, nous, chez Pure Commerce, on se focus beaucoup sur tout ce qui est acquisition de trafic, rétention également du trafic avec des initiatives mailing, un peu moins au niveau CRO, au niveau conversion. Est-ce que c'est des cas que vous voyez souvent dans votre catégorie?
Alors, oui. Et je vais te répondre avec un chiffre qui est très concret, que je suis en train de retrouver. Mais en gros, aujourd'hui, on estime que dans le web, à peu près 75% des modifications qui sont faites sur un site ou une application dans le web aujourd'hui n'apportent pas d'amélioration de la conversion ou la dégradent. Et uniquement 25% des modifications sur un site amènent une amélioration de la conversion. Donc aujourd'hui, en fait, on navigue encore beaucoup à vue sur son site internet. Et quand on fait des modifications de son site, on ne sait pas trop si ça va améliorer ou pas la conversion. C'est un peu au petit bonheur la chance. On essaye et puis on voit ce que ça donne derrière. Et ça, c'est hyper dangereux, notamment pour des e-commerce qui tournent bien. Du jour au lendemain, t'as ta conversion qui chute comme ça, c'est assez malheureux. Et ouais, on le voit beaucoup en ce moment. Enfin là, je pense que ça fait des années que ça existe, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont fait des modifs sur le site. Ils savent à peu près ce qui a fait chuter la conversion. Et parfois, ils savent à peu près où ça se trouve dans le funnel d'achat. Mais voilà, ils n'arrivent pas à remonter la pente. Donc oui, pour répondre à ta question, ça arrive assez souvent. Et c'est pour ça qu'on en reparlera juste après, mais il faut vraiment mettre en place un process précis qui est le process CRO dont on reparlera pour éviter ce genre de malheur.
Et on va en parler dans quelques instants, mais juste pour terminer sur cette parenthèse ici que j'ai intégrée, à quoi on attribue ces enjeux-là? Et en sous-question, j'aimerais savoir, est-ce que plus souvent qu'autrement, les modifications qui sont faites sur des sites web sont faites peut-être par des gens qui ont l'œil artistique, mais qui au final ne laissent pas parler le data avant de faire des modifications?
Effectivement, alors en fait, ce qui est assez intéressant, je vais répondre à ta question avec plusieurs aspects, mais déjà, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que ça dépend de la taille du e-commerce. Les marques e-commerce qui sont pas très connues, généralement, elles vont privilégier plutôt l'UX, plutôt la conversion, généralement exact. Les premières années. Donc là, pour le coup, tu auras surtout des UX autour de la table, ou en tout cas, tu auras les fondateurs qui sont pleinement investis, les fondateurs généralement des DNVB, donc des e-commerce qui se sont lancés, des marques qui sont lancées purement en e-commerce au début. Généralement, ils sont assez impliqués dans leur site internet, ils voient ce que font les concurrents, ils s'inspirent beaucoup des concurrents, etc. Donc généralement, l'UX n'est pas trop mal fait. En plus, ils utilisent des solutions comme Shopify qui a quand même des thèmes qui sont très bien fichus et qui te permettent d'avoir une conversion correcte. Donc à ce stade-là, ça se passe bien. En revanche, quand tu commences à avoir un e-commerce qui grossit et tu commences à avoir une notoriété et une marque qui est reconnue, du coup, ça va être plutôt l'esthétisme qui va être privilégié. Tu vois, tu as des gros e-commerce très connus aujourd'hui. Certes, ils font beaucoup d'A/B testing, mais à côté, ils mettent des choses en place sur leur site. C'est complètement aberrant. ils vont vraiment privilégier la partie esthétique. Et donc là, ils vont faire plutôt rentrer des directeurs graphiques, directeurs artistiques, des UI designers, donc des designers qui sont plus sur la partie graphique. Et à ce moment-là, ils vont implémenter des choses plus visuelles avec des animations, des choses comme ça, qui sont assez jolies et visuellement, c'est assez sympa à regarder, mais ça peut dégrader la conversion. Tu regardes par exemple Amazon, alors je pense qu'on recitera cet exemple peut-être après, mais aujourd'hui Amazon, le site est horrible. Tout le monde est d'accord pour là-dessus, mais c'est un site qui convertit super bien parce qu'en fait ils ont mis des UX autour de la table, ils ont mis des CEO guys autour de la table et ils se sont dit OK, comment on va faire en sorte que ça convertisse très bien et on va mettre vraiment la partie graphique de côté. Donc je pense que ça dépend du stade de maturité du e-commerce dont on parle et généralement les mauvaises décisions sont prises parce que on va mettre trop de graphistes autour de la table et pas forcément un UX designer qui va arriver et qui va arrêter tout le monde en disant « Ouh là là, je vous arrête tout de suite, mais là, si vous faites ça, en fait, si vous mettez le bouton à cet endroit-là ou si vous mettez la section avec cette animation-là, eh bien, vos utilisateurs ne vont pas comprendre comment cliquer sur le bouton, comment accéder à la page suivante. »
Tellement intéressant. Parfait. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, tu as une situation où est-ce qu'on perd environ 1% de taux de conversion, voire plus, un e-commerce, une boutique en ligne qui va faire dans les centaines de milliers d'euros par mois. Quel est le processus qu'on met en place ici, Pablo? Comment qu'on est capable de résoudre ces problématiques?
Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette étude de cas justement pour expliquer un peu les best practices à mettre en place et quel est le process à mettre en place. C'est un process, vous savez, le CRO, c'est une méthode de travail en fait. C'est un process qu'on applique à la lettre avec des étapes très précises et c'est ça qui va nous permettre de remonter la conversion. Dans le cas de ce client-là, en fait, nous, généralement, ce qu'on fait quand on observe une dégradation de la conversion comme ça, on regarde deux choses. Pour introduire le sujet, la première chose, ça va être l'acquisition. Et en parallèle, on va regarder la partie conversion sur le site. L'acquisition, c'est intéressant quand même de regarder. Et je pense qu'Antoine, tu maîtrises assez bien le sujet. Généralement, l'acquisition, si on ramène pas un trafic qualifié sur son site, bien évidemment, ça peut dégrader la conversion derrière. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est si c'est un site internet qui est en phase de scale, donc qui commence petit à petit à essayer d'aller travailler un peu là, sa profondeur de canal, que ce soit sur Facebook, sur Google, etc. Et donc, qui va essayer de mettre un peu plus de budget, mais qui va peut-être ramener du trafic un peu moins qualifié. Donc, généralement, on aime bien regarder ça déjà pour voir si, au niveau du trafic, il n'y a pas quelque chose qui a bougé depuis cette rechute-là. Et là, par exemple, dans le cas de ce client-là, c'était un trafic qui était assez constant. Donc, comme c'était un client, généralement, c'était un e-commerce qui avait déjà quelques années. Donc, c'était un e-commerce qui avait un trafic assez constant. Il avait un pourcentage de SEO qui était constant, pourcentage de SEA constant. Voilà, l'acquisition n'a pas trop bougé, en fait, au moment de la refonte. Donc, ça, heureusement qu'elle n'a pas trop bougé parce que si elle avait bougé à ce moment-là, on se serait dit, ah, mais c'est peut-être la faute de l'acquisition. Là, c'était pas le cas. Donc, la deuxième chose qu'on a regardée, c'est on s'est dit, OK, donc, il y a un problème au niveau du site. Bon, on le savait déjà. Entre nous, on savait déjà qu'il y avait un problème sur le site, mais on voulait quand même regarder.
On est méthodique.
Voilà, on sait jamais. Mais là, en tout cas, c'était sûr que la refonte qu'a faite ce client, donc une refonte graphique, je vous reparlerai juste après, c'est ça qui a du coup dégradé la conversion. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Donc, une fois qu'on a regardé ces deux choses-là et qu'on est sûr que c'est au niveau de la conversion que ça ne va pas, la première chose qui nous a sauté aux yeux, et c'est ce dont je parlais il y a quelques minutes, c'est que ça a été une refonte qui a été surtout graphique. Donc, ils ont engagé une agence experte en direction artistique avec beaucoup d'UI designers, pas forcément des UX designers. Et donc, ils ont travaillé, t'imagines, ils ont travaillé pendant des mois sur une refonte avec des budgets assez énormes sur la partie graphique, avec des développements derrière. Ça a quand même un coût de faire le dev du site derrière avec tous les développeurs, etc., pour qu'au final, la conversion se dégrade. Donc ça, et ce qui était assez intéressant, et on a déjà eu le cas de figure chez d'autres clients, c'est que le client était conscient de ce problème-là. Quand ils sont venus nous voir, quand ce client en cosmétique est venu nous voir, il nous a dit, mais en fait, on sait qu'on a déconné parce qu'on a fait une refonte graphique et maintenant, nos utilisateurs, ils sont perdus sur le site.
Donc, premier point pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, là, si vous êtes en train de penser à améliorer votre site Internet, assurez-vous de mettre autour de la table des gens qui analysent le site au niveau du data. Et par la suite, également, on va intégrer des gens qui ont une très belle vision artistique, des designers, etc., qui s'occupent du volet UX. Mais un sans l'autre est problématique, clairement. Alors.
Exactement. La chose que j'ai pas dite au début, c'est que ce qui est intéressant dans le taux de conversion, c'est que alors, généralement, le taux de conversion, la moyenne en e-commerce, elle est à peu près à 3% aujourd'hui. Alors, c'est pas vrai. Enfin, c'est 3% en desktop et 1,6% en mobile. Mais en gros, on va dire qu'on est entre 2 et 3%. Mais ça, c'est en général. Quand on zoome sur chaque secteur d'activité, on a des taux de conversion moyens qui sont différents. Et notamment, tout ce qui est secteur skincare, donc soins et cosmétiques, etc. on est sur une moyenne à peu près à 3,6%. Donc, vous imaginez, là, on est à 1,5 à 2% sur ce client, alors que la moyenne était à 3,6. Donc, clairement, on est trop loin du compte. Et là, il faut redresser la barre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on voit qu'il y a la conversion est dégradée suite à une refonte? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout de suite aller chercher du quick win. Avant de penser à A/B testing, OK, il va falloir faire des recherches dans tous les sens, mettre en place un Google Optimize pour faire de la A/B test, etc. Clairement, là, il y a du quick win à aller chercher. Il suffit déjà de regarder un peu comment était le site avant, comment est le site maintenant, et d'essayer de comparer un peu et d'essayer de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Donc nous, ce qu'on a fait en fait, c'est comme ça fait maintenant quelques années qu'on baigne dans le e-commerce et on sait exactement ce qui convertit, ce qui ne convertit pas sur toutes les pages d'un e-commerce, sur le checkout, sur le cart, etc. On est vraiment allé chercher du quick win. Donc les différentes étapes qu'on a mises en place, elles sont assez simples et ça vous pouvez le répliquer de votre côté. Déjà, on essaie de comprendre ce qui se passait. Donc, généralement, pour comprendre ce qui se passe, on fait une analyse, ce qu'on appelle une analyse CRO. D'ailleurs, le CRO, hein, je précise, c'est un acronyme un peu barbare qui veut dire Conversion Rate Optimization. Et en fait, ça va être l'optimisation de la conversion d'un site. Bref, je précise parce que je vais le réemployer après. Mais en tout cas, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est faire une analyse CRO. Donc, on va regarder la data, t'en parlais tout à l'heure. On regarde la data et on regarde au niveau de l'UX ce qui va et ce qui ne va pas. Et on fait aussi un comparatif entre l'ancien site et le nouveau site. Donc ça, je vais pas trop rentrer dans le détail, on pourra en reparler après si tu veux. Mais au niveau de la data, aujourd'hui, on utilise tous les mêmes outils, comme un Google Analytics qui va nous permettre de savoir, ou même Shopify, hein, la partie data de Shopify est assez bien fichue. Donc on peut tout de suite voir, est-ce qu'il y a des pages qui convertissent moins bien qu'avant? Est-ce que le taux d'ajout au panier est moins bon qu'avant? Si le taux d'ajout au panier est moins bon qu'avant, ça veut dire que ça ne convertit pas assez bien au niveau de la PDP, enfin, au niveau de la page produit. On va faire aussi une analyse UX. Donc là, nous, on est des UX designers, donc on va regarder le site et on va dire, OK, là, ça va pas. Là, c'est pas assez optimal. Là, la section, elle prend trop de place. Là, on comprend pas, ce bouton, il ressort pas par rapport aux autres, etc. Pareil, on pourra donner des exemples si vous voulez après. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de faire une analyse data et UX et de comprendre ce qui se passe sur le site. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est du quick win. Alors pour ça, pour aider un peu l'audience, c'est, en fait, faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire que il faut regarder ce qui se fait ailleurs, regarder ce que font les concurrents, regarder aussi dans d'autres secteurs d'activité. Si vous voyez que vos concurrents ils font des sites qui sont plus simples que les vôtres, ça sert à rien d'essayer de faire un truc trop farfelu parce que ça marche pas derrière. Ce qui peut être intéressant aussi, et je vais en reparler après, mais je vais en reparler maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle du shadowing. Le shadowing, en fait, c'est que tu vas prendre 5 à 10 utilisateurs maximum de ton site. Alors idéalement, c'est des gens qui ne connaissent pas ton site, qui ne connaissent pas ta marque. Et tu vas te mettre derrière leur épaule comme ça et tu vas regarder leur comportement sur le site. Ça, c'est un truc qui est complètement sous-coté, mais qui est la meilleure méthode pour optimiser votre e-commerce. Vous prenez 5 personnes, ça peut être des amis ou des amis d'amis. Vous les mettez sur votre site internet, sur un ordinateur ou sur un téléphone et vous regardez comment ils se comportent sur le site. Et généralement, en UX, on dit que 5 à 10 personnes interrogées, ça suffit pour souligner au moins 80% des problèmes les plus récurrents de votre site.
Oh, wow! À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse. Ou encore, venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Et ça, juste pour être certain, vous faites ça, vous amenez des gens au bureau, vous faites ça, comment tout ça se met en place?
Alors, tu amènes des gens effectivement chez toi, soit tu le fais à distance, donc tu fais ça sur Google Meet ou autre outil et tu regardes comment la personne se comporte, elle partage son écran. Soit Parfait. Tu as aujourd'hui des outils, je pourrais te donner les noms et on pourra les mettre en description de l'épisode si besoin. Tu as des outils aujourd'hui qui sont mis à disposition où tu vas pouvoir donner ton site à des groupes d'utilisateurs qui vont tester ton site et qui vont te faire des retours. Alors ça, c'est plus des retours utilisateurs un peu comme comme ce que tu verras sur un Hotjar ou un Content Square. Tu verras, t'auras des vidéos, mais oui, t'auras des vidéos, donc ça c'est intéressant. T'auras les heatmaps, ce genre de choses là. Mais c'est quand même pas mal d'avoir des personnes en live devant toi à travers une vidéo ou que tu as sous la main au bureau pour voir comment elles se comportent. Et en fait, vous imaginez pas la richesse de ces sessions là. Et tu vois des gens. En fait, tu vas voir une personne qui va sur ta page produit et qui va scroller et qui va pas trouver le bouton ajouter au panier. Et tu vas lui demander mais pourquoi tu n'ajoutes pas au panier? Bah parce que je ne vois pas le bouton, je ne sais pas où il est. Et ça en fait c'est assez phénoménal les retours parfois qu'on obtient. Et généralement si vous travaillez sur votre e-commerce, vous avez trop la tête dans le guidon, vous vous rendez pas compte des problèmes qu'il y a sur le site. Et c'est justement ces sessions de shadowing avec des vrais utilisateurs, ça permet de relever pas mal de problèmes. Donc ça, je vous conseille de le mettre en place. Ça peut faire partie du quick win au début. D'essayer de détecter quels sont les plus gros problèmes du site, quoi.
Intéressant. Voilà.
Donc c'est vraiment du bon sens, quoi. C'est aller voir ce que les utilisateurs vous disent, regarder la data, faire un petit audit UX, donc ça vous regardez un peu ce que font vos concurrents. Vous pouvez aussi utiliser Hotjar ou Content Square ou Lucky Orange, c'est des outils de heatmap et recording qui vous permettent de voir un peu comme vos utilisateurs se comportent sur votre site à travers des vidéos ou des heatmaps. Donc des cartes de chaleur, donc ça c'est assez puissant aussi. Et si vous faites déjà tout ça, et en vrai il y a pas besoin, il y a quelques jours de boulot tout au plus, déjà ça va vous remonter, ouais, les 90% des problèmes sur le site. Voilà. Donc déjà vous êtes pas mal. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un backlog, parce que vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, il y a trop de choses à corriger sur le site. Donc l'objectif, ça va être de prioriser les optimisations sur le site. Donc on met en place un backlog. On met dans le backlog toutes les idées qu'on veut optimiser, donc toutes les choses qu'on veut corriger sur le site, et on va prioriser en fonction de différents critères. Généralement, on priorise en fonction de la difficulté d'intégration et de l'impact que ça va avoir sur la conversion. Voilà. Donc ça, c'est le backlog, et c'est important de l'avoir pour savoir par quoi on commence. Et enfin, les trois dernières étapes, on fait des wireframes et des maquettes pour intégrer ces quick wins qu'on a pu détecter avec toute l'analyse. Donc ça, on fait appel à des UX ou des UI designers. On intègre les maquettes avec des développeurs, donc en no-code ou en low-code ou en dev pur. Et ensuite, on analyse l'impact sur le taux de conversion. Voilà. Je me suis un peu attardé sur cette partie-là. C'était un peu long, mais l'idée, c'est vraiment du quick win. Et le but, c'est d'aller vite et d'intégrer rapidement des quick win qui tombent sous le sens.
Ben, clairement. Puis je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent aujourd'hui soient capables de comprendre la structure que vous utilisez chez Uxia pour analyser ce qui se déroule avec vos clients et par la suite intégrer des recommandations. Ceci étant maintenant, on revient au cas client. On avait au départ un 2,5, 3% de conversion. Les changements sont faits au niveau design, au niveau UX, comme tu l'as mentionné. Les résultats chutent. Vous arrivez, vous faites votre analyse, vous mettez ça en place. Comment ça se déroule par la suite? Est-ce que tu es capable de nous expliquer un petit peu l'évolution de ce qui s'est déroulé avec cette boutique en ligne?
Ouais, carrément. Alors en fait, on a du coup, avec tout ce que je vous ai dit, on a passé un premier palier. C'est-à-dire que là, c'était un peu, il y avait l'incendie dans la maison. Il fallait éteindre le feu. Donc les pompiers sont appelés. Il faut juste éteindre le feu. Donc rien que d'éteindre le feu, sachant que c'était un site qui avait beaucoup de trafic. Donc disons que quand on faisait une modification sur le site, on voyait rapidement les résultats. Parce que forcément, si t'as moins de trafic sur le site, bah, les résultats peuvent se faire un peu attendre. En tout cas, là, dans le cas de ce client-là, vu que c'était un site avec beaucoup de trafic, on était à 120K mensuels à peu près de trafic. En 2 mois, on a réussi à redresser la barre et à revenir au niveau qu'ils avaient avant.
OK. 60 jours, c'est pour revenir. C'est le temps que ça vous a pris pour revenir un petit peu à où est-ce qu'ils étaient avant les changements au niveau du design de leur site web.
Exactement, exactement. Et ça a été donc assez rapide. Bon, après, je vous cache pas que ça a été assez tendu, parce qu'au début, on est allé très vite, en fait. L'analyse a été assez rapide à faire. Le client avait déjà tous les outils de tracking qui étaient paramétrés, donc on a pu déjà très rapidement mettre les mains dans le cambouis. On avait Hotjar qui était paramétré, Google Analytics nickel. Enfin, vraiment, on avait tout servi sur un plateau d'argent, toute la donnée était nickel. Et donc on a pu tout de suite rentrer dans l'analyse. Donc faire l'analyse complète, ça nous a pris une semaine tout au plus. Et ensuite, dès la deuxième semaine, on a pu attaquer tout ce qui est wireframe, maquette. En parallèle, on continuait l'analyse sur les outils comme Hotjar. On continuait à faire du shadowing en demandant des utilisateurs ce qu'ils pensaient du site, ce qu'ils pensaient de nos maquettes en parallèle, etc. Mais en tout cas, l'intégration s'est faite assez rapidement. C'était un client qui avait de la disponibilité côté dev. Et du coup, au bout d'un mois, on avait déjà implémenté pas mal de choses. Et on a attendu quelques semaines pour voir l'impact sur la conversion. Donc ça, c'était un peu la première étape quick win qu'on a mise en place. Une fois qu'on a fait ça, donc on est retombé dans un taux de conversion. Je peux vous dire, on était presque à Ouais, c'est ça. On était à peu près à 2,53 à peu près. Donc on était revenu au niveau d'avant. Donc ça c'était super chouette. Le client était très content. Mais on ne s'est pas satisfait de ça. On s'est dit, ok, comment on fait pour aller plus loin maintenant, sachant que, rappel, la moyenne du secteur est à 3,6. Donc on va essayer d'aller challenger un peu la conversion de ce client-là. Et donc là on est arrivé à un stade où on atteint un espèce de plafond de verre. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être connu ce plafond de verre ou le connaissent aujourd'hui. T'as pas mal optimisé ton site, tu t'es amusé à rajouter pas mal de choses, t'as suivi un peu toutes les best practices, tu penses que ton site est merveilleux et que tout va bien, mais voilà, la conversion ne bouge pas trop, voilà, t'arrives pas trop à progresser sur ton taux de conversion. En plus, en face, t'as les coûts d'acquisition qui augmentent en ce moment avec Facebook et Google, donc tu dis, oh là là, donc mes marges sont en train d'être réduites, comment je vais faire, etc. Et c'est là où tu mets en place le process CRO qui va te permettre de challenger ta conversion et d'aller gratter quelques pourcentages de conversion. Donc, c'est ce qu'on a mis en place pour ce client.
On veut savoir. Au final, maintenant, au moment où on se parle, avec tout le processus que tu nous as expliqué aujourd'hui, toutes les analyses, tous les utilisateurs qui te regardaient un petit peu ce qu'ils faisaient quand ils naviguaient sur le site, on en est où? Est-ce qu'on a été capable d'améliorer un peu le pourcentage?
Alors ouais, on a pu améliorer le pourcentage et je te donnerai le chiffre après, mais on a quand même pas mal gratté des points. Et on a du coup rattrapé, on a quasiment rattrapé la moyenne du secteur, donc on était assez content là-dessus. On a pris entre 0,5 et 1% après ce qu'on a mis en place, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Là, ce que je vous explique, c'est vraiment le process CRO. Alors c'est quelque chose qui a été théorisé. Il y a notamment un expert CRO américain qui s'appelle Ruben De Boer, qui lui a fait des cours sur Udemy, je crois, et qui le montre très bien sur un schéma. Et c'est exactement ce process-là. Donc c'est un process qui est en 4 étapes. La première grosse étape, ça va être tout ce qui va être la recherche, en fait, la user research. Donc en fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend un peu ce que je vous ai dit avant, tout le process que j'ai dit avant, mais on va le pousser un peu plus loin. Et on va mettre en place de l'A/B testing. Ça, je vous en ai pas parlé. Ça va être ça la petite nouveauté. Mais en gros, ce qu'on fait généralement, c'est un process en 4 étapes. Il y a de la user research. Donc on va regarder. On va mettre en place un questionnaire qu'on va envoyer à nos utilisateurs de notre site pour comprendre et leur poser des questions sur leur expérience sur le site, quels sont les points de friction qu'ils rencontrent sur le site. Aussi poser des questions sur qu'est-ce qui a fait qu'ils ont acheté sur le site, quels sont les arguments commerciaux qui ont fait mouche et qui ont fait qu'ils ont acheté derrière. Tout ça, c'est hyper intéressant. Ça va nous permettre d'améliorer l'UX writing, donc le copywriting des pages du site. Voilà, donc on fait la user research, la data research, on en a déjà parlé, on utilise Analytics, on utilise la data de Shopify si on est sur Shopify. Il y a plein d'autres outils de tracking qui permettent d'analyser la data. On va utiliser du Hotjar, du Luckio Range ou du Content Square ou d'autres outils pour tout ce qui est recording et heatmap. On fait du shadowing un petit peu. Enfin voilà, ça j'ai déjà expliqué, mais tout ça, ça nous permet de générer des nouvelles idées qu'on n'avait pas avant. Et toutes ces idées-là, on va les mettre dans un backlog. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment le tableau où on va pouvoir prioriser les différentes optimisations à mettre en place sur le site. Donc là, on rentre dans la deuxième phase. Une fois qu'on a fait la user research, ça va être la phase hypothèse. Donc on va émettre des hypothèses. En fait, si vous voulez, le CRO, ça s'apparente beaucoup au gros hacking. Je vais juste hacker la croissance de mon business et trouver des hacks qui vont faire que je vais exploser ma croissance. Non, le gros hacking, c'est un process qui est très précis, comme le CRO, où on va suivre plusieurs étapes, on va faire beaucoup de test and learn. Et donc, notamment, on va tester des hypothèses. Donc, dans le backlog, moi, j'aurai plein d'hypothèses. Par exemple, une hypothèse, ça va être, allez, je prends un truc très simple, sur ma page produit, si je mets le bouton add to cart de telle couleur, à la place de la couleur que j'ai actuellement, ça va améliorer la conversion. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on va vouloir tester. Une fois qu'on a listé toutes les hypothèses, on rentre dans la troisième phase, qui est la phase de testing. Et cette phase de testing, c'est de l'A-B test qu'on va mettre en place. Et c'est là où tu vas pouvoir briser ton plafond de verre. C'est grâce à de l'A-B testing. L'A-B testing, alors je pense que tu vois très bien ce que c'est. On peut expliquer peut-être à l'audience, même si j'imagine que vous êtes déjà au fait de cette méthode-là. L'A-B testing, ça va être, pour faire très simple, tu vas avoir deux versions de ta page produit, par exemple. Une version A, une version B, tu vas faire venir 50% de ton trafic sur la version A, 50% de ton trafic sur la version B, et après tu vas voir quelle est la version qui convertit le mieux. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place quand tu atteins ce plafond de verre. Il faut faire que de l'A-B testing. Pourquoi on fait de l'A-B testing? Pour plein de raisons, hein, mais je peux déjà en citer deux. La première, c'est que tu t'assures que, avant d'intégrer quelque chose sur ton site internet, tu t'assures que ça va améliorer ta conversion. C'est-à-dire que l'A-B testing, tu n'as pas forcément besoin de faire appel à des développeurs pour modifier ton site, ton e-commerce. Tu vas d'abord, avec des UX designers, tester la couleur d'un bouton, un texte, une section, mettre une section en dessous d'une autre, etc. Et si tu vois que ton test est concluant et que ça améliore la conversion, là, à ce moment-là, tu vas voir tes développeurs et tu leur dis « Ok, c'est bon les gars, vous pouvez maintenant intégrer sur le site internet. » Donc déjà, tu économises beaucoup de ressources parce que tu es sûr que quand tu intègres quelque chose sur ton site, c'est quelque chose qui va améliorer la conversion. Et le deuxième aspect qui est intéressant, c'est que tu es sûr que c'est quelque chose qui améliore ta conversion et qui ne la dégrade pas. Combien de fois, moi, j'ai vu des clients mettre en place des optimisations, des nouvelles fonctionnalités sur leur site et se retrouver avec la conversion derrière qui est dégradée pour telle et telle raison. Voilà, donc ça, c'est un risque aussi. Si tu mets pas en place l'A/B testing aujourd'hui, c'est un risque pour ta conversion.
Bah, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai ici. Non?
Ouais, c'est pas compliqué. Alors, en vrai, c'est pas compliqué du tout. C'est vrai que aujourd'hui, l'A/B testing, c'est quelque chose qui est très utilisé par, le CRO a été inventé par les géants de la tech, hein. C'est pour ça qu'ils sont très bons. Donc, c'est eux qui ont mis ça en place. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on le voit chez nos clients, c'est surtout les grands comptes ou les gros sites e-commerce assez robustes, assez costauds qui mettent en place un vrai process d'A/B testing où les mecs, ils testent des dizaines, voire des centaines d'A/B tests par jour. Mais quand tu regardes des e-commerce un peu plus petits, c'est pas un réflexe que prennent les petits e-commerçants et c'est dommage parce que tu obtiens des résultats assez phénoménales derrière.
Combien de temps environ, un mandat d'analyse comme ça, là, combien de temps vous avez mis sur tout ça en termes de mois?
Alors, pour ce client, en gros, alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, les A/B tests, la durée d'un A/B test va dépendre du trafic que vous avez sur le site.
Bien sûr, 100%.
Voilà. Donc, mais généralement, plusieurs semaines, ça suffit pour déjà avoir des résultats sur tes A/B tests. Même sur des e-commerce qui sont allés à 50 000 de traf par mois, tu peux déjà. Alors, bien évidemment, quand le trafic est pas énorme, comme un 50 000 par mois, là, tu vas plutôt tester au niveau du top funnel. Donc ça va être la page home, la page collection, la page produit, etc. En revanche, quand tu commences à avoir un beaucoup plus gros trafic, quand tu dépasses le 100, 200 000, là tu peux commencer à t'amuser à tester du bottom funnel, donc à faire des A/B tests dans le checkout, dans le cart. Donc pour répondre à ta question, ça dépend de la taille de ton e-commerce, ça dépend de la quantité de données que tu as, mais généralement en quelques semaines, tes A/B tests sont terminés. Et tu peux déjà conclure de si ton A/B test a fonctionné ou pas. Est-ce qu'il y a, entre les deux versions que je teste, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou pas? Parce que ça arrive que ton A/B test ne soit pas concluant et que tu arrives à un résultat où les deux pages convertissent aussi bien et à ce moment-là, tu abandonnes ton test et tu te dis « Ok, je ne l'intègre pas sur mon site, le test n'est pas assez concluant. » Donc, pour répondre à ta question, c'est plusieurs semaines généralement. En gros, les A/B tests, c'est pas compliqué à les mettre en place. Hein. Il faut quelques jours pour les mettre en place avec un Google Optimize, par exemple. Et ensuite, tu laisses tourner pendant 2, 3, 4 semaines. Quoi.
Intéressant. Pablo, avant de te laisser filer, est-ce que tu as des choses à rajouter pour notre audience?
Écoute, non, je pense que c'est pas mal. Je regardais si j'avais rien oublié dans tout le process. Je pense que c'est bon. En tout cas, c'est pas compliqué à mettre en place. Et encore une fois, ça permet de briser le plafond de verre dont je parle depuis tout à l'heure. Et vraiment, tester Google Optimize, ça s'intègre très bien à des CMS, à votre Google Analytics. Faites des tests très faciles au début. Comme je vous disais, l'exemple de la couleur du add to cart, ça peut être juste un petit texte, le short description de la page produit. Enfin voilà, faut pas hésiter à faire des petits tests au début, à monter petit à petit en compétence, et derrière vous verrez les résultats sont assez intéressants et on se doute pas de ce qu'on peut obtenir derrière.
Vraiment très fascinant comme discussion qu'on a eu ensemble aujourd'hui, Pablo. Spécifiquement le volet du shadowing, j'ai adoré ce que tu nous as mentionné, ce que tu nous as partagé. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur Uxia, sur toi, c'est quel endroit, où est-ce que c'est le plus simple pour vous rejoindre et pour vous suivre?
Alors, il faut pas hésiter sur LinkedIn. Donc Pablo Lenormand sur LinkedIn. Bon, peut-être qu'on mettra un lien. Je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas à me mettre un petit message si vous avez des questions sur votre site, si vous voulez que je regarde votre site et que je vous donne des petits conseils. Et puis sinon, ne pas hésiter à aller sur uxia.com, qui est le site de ma boîte. Et c'est là où on peut parler ensemble et vous pouvez nous contacter à travers le site. Mais LinkedIn, n'hésitez pas. Je pense que c'est le meilleur moyen de nous joindre et qu'on puisse répondre rapidement à vos questions. Vraiment, n'hésitez pas.
Fantastique. Pablo Lenormand, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que l'audience de Commerce Elite a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai adoré la discussion. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Elite.